Vous écoutez RMC. RMC.
Un dicton qui dit mieux vaut en prendre qu'un en un match qu'une fois quatre buts.
Après, ouais, moi c'est sûr que c'est un poste que j'impressionne.
C'est le Togo, c'est l'Afrique avec son charme et c'est des aventures.
Vaut mieux être un ancien joueur et y aller mollo avec les diplômes plutôt qu'un joueur lambda bradé de diplômes.
Jusqu'à minuit, les 20 ans de l'Afterfoot, en direct de Valence.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, c'est l'After qui est là sur RMC en direct, également sur Afterfoot TV et sur la chaîne YouTube de l'After. L'After Première Radio de France le soir qui continue sa tournée des 20 ans, et ce soir nous sommes à Valence. Eh oui, à Valence. Qui l'eût cru ? Eh ben oui, il n'y a pas de foot à Valence, il y a un petit peu a priori, mais on est très heureux d'être là. Bonsoir à tous, bonsoir Valence ! Alors évidemment, je ne suis pas venu tout seul, messieurs, dames, on est au cinéma, donc on fait un peu l'entrée des vedettes. Donc je vous demande d'accueillir en premier celui qui pensait qu'on allait aller à Valence en Espagne, puisqu'il a vécu longtemps à Madrid. Ben non, un peu de déception pour lui, mais il est venu quand même, c'est Jean-Louis Tour qui est là. Jean-Louis, bonsoir. Alors lui est arrivé il y a à peine 5 minutes grâce à la SNCF et ses 3 heures de retard, mais il a trouvé un super taxi à la gare TGV de Valence et il est à l'heure. Messieurs, dames, Florent Gautreau. Et puis le dernier, lui, il pensait que Valence c'était juste l'endroit où tu prends à gauche pour aller au ski. Non, là, il s'est arrêté pour venir vous voir. C'est Daniel Riolo. Ouais. Alors l'événement ce soir, les gars, dans l'After. Salut Jean-Louis, salut Flo.
Salut Gilbert.
Il y a deux événements ce soir. Il y a le suspense en Ligue 1, on va en parler longuement. Et il y a les trophées UNFP qui sont en cours actuellement. Donc on attend le meilleur joueur de Ligue 1. On a le meilleur gardien, je crois que c'est Risser.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
Risser qui a eu
le meilleur espoir avec Doué.
Meilleur espoir avec Doué, qui est plus trop un espoir.
Bah, c'est ça, oui.
Bon, enfin bon, on va en reparler, on va suivre ça toute la soirée, bien sûr. D'ailleurs, tu veux, Jean-Louis, justement donner ton avis sur le trophée du meilleur coach, qui nous permettra ensuite de revenir sur les tensions autour d'Habib Bey à Marseille. Tout à l'heure, à 22h30, on parlera de Lyon. L'OL qui a un peu du mal à gérer la pression. Les Lyonnais ont craqué hier soir et le match contre Lens dimanche pourrait les priver de Ligue des Champions. On va faire le point sur tout ça dans quelques minutes avec vous, supporters lyonnais. À 23h, Daniel veut lancer un appel solennel au PSG pour le bien du football français. Donc, retenez bien ce rendez-vous. Le PSG nous écoute, hein. Donc Daniel, je pense que tu as préparé tes arguments. Et puis Florent, évidemment, veut parler de Rennes, sans surprise, parce que Rennes est toujours en lice, plus que jamais, pour la Coupe d'Europe. Tout ça sans oublier quelques petits quiz que je vous ai préparés avec des beaux cadeaux sympas tout à l'heure. On a notamment des places à vous faire gagner pour le match de ce week-end Marseille-Rennes. C'est pas mal pour les supporters de l'OM qui sont par là. Et puis, si vous n'êtes pas avec nous au cinéma Pâté de Valence, eh bien, vous pouvez nous appeler. Le 3216 est ouvert, le numéro WhatsApp de l'After également. Alors, on va aller tout de suite au trophée du foot. Clément Brossard est sur place. Clément, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Est-ce qu'il a croisé Comboiré, Clément Brossard ?
Ah non, il n'est pas présent. Malheureusement, il n'est pas présent au trophée UNFP, mon cher Antoine Comboiré. Non.
Comment tu l'aurais appelé, surtout ? C'est ça la question.
Bah, je l'aurais vous voyé, bien sûr. Mon cher Antoine, je pense que ça serait passé.
Alors, quels sont les trophées qui ont déjà été attribués ?
Le trophée de meilleur espoir de Ligue 1, pour commencer. Désiré Doué, c'est vrai qu'il, dans un sourire. Désiré Doué, c'est un petit jeune. Mais... Non, c'est un petit jeune, Daniel. Il vient d'arriver en Ligue 1, c'est normal. Mais dans un sourire, il nous a dit non, je suis toujours
le vrai espoir, c'était Barco,
un espoir.
Mais bon,
on va
rien dire.
Non, ce que j'aimerais savoir, c'est qui a été élu le meilleur espoir l'année dernière?
C'était lui, déjà.
Désiré Doué.
Ok. Non, c'est pour être sûr, c'est tellement logique, en fait.
Alors, c'était le seul présent sur place.
C'est re. Et
il ne sera pas
il est nommé. Il a fait, il a fait couler
la logique, en fait, du truc.
Non mais c'est pas le premier. Figure-toi, Daniel.
Place, quelle est la logique du truc?
Alors la logique, c'est qu'il y a, c'est que c'est pas la première fois. Eden Hazard et Kylian Mbappé l'avaient aussi remporté 2 et 3 fois.
Oui,
de
non,
suite.
Mais c'est pas parce qu'on a fait la connerie 3 fois que c'est pas une connerie. Hein.
Non, mais c'est l'âge. Pour, c'est juste pour que bêtement, que, voilà, ils prennent le critère de l'âge.
Alors
c'est
qu'on tout, me dise,
pour être dans la catégorie.
Tu dois voir, David Terrier doit pas être très loin en tant que patron de l'UNFP. S'il te plaît, Clément, va lui poser la question. Tu lui demandes de ma part. Tu as Daniel qui veut te poser une question. Tu lui demandes pour c'est quoi le critère de l'espoir.
Tu le vois, s'il te plaît.
Ouais, dis-lui vous.
J'ai commencé à faire avec Comboiré la dernière fois.
Il risque de rentrer dans son trou là si tu lui poses cette question. Bon, et à part le meilleur espoir.
Sinon, on a eu Jérôme Brizard comme meilleur arbitre de Ligue 1, figurez-vous. Nous avons aussi eu Justine Rouquet, Mylène Chavas, meilleur espoir et meilleure gardienne de Ligue 1 Arkema. Melchie Dumornay, la lyonnaise, meilleure joueuse. Robin Risser en tant que meilleur gardien de Ligue 1. Qui est venu il y a quelques minutes en conférence de presse et qui nous a dit qu'il allait regarder évidemment la liste jeudi de l'équipe de France en espérant une bonne surprise, mais que la surprise, la deuxième bonne nouvelle de la semaine, ce serait de battre le Paris Saint-Germain. Il préfère battre le Paris Saint-Germain qu'être dans la liste, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit. Et puis ensuite on a eu un petit peu de Ligue 2 avec Quentin Brat, le gardien de Rodez, qui a été élu meilleur gardien, Zurico Davitashvili, le Stéphanois, meilleur joueur de Ligue 2, et puis l'équipe type 4-3-1, sacré champion de Ligue 2, qui figure dans l'équipe type de deuxième division. Et à l'instant, Mickaël Olysée, qui est présent sur place à Paris, a été élu meilleur français de l'étranger.
Très bien, tout à l'heure pour d'autres trophées en l'occurrence, notamment sur coach et de meilleurs joueurs de Ligue 1. Il y a des matchs ce soir, Tottenham-Leeds 0-0 après 46 minutes, important pour Tottenham pour ne pas descendre. Je vous tiendrai informé si les buts sont marqués. Alors les gars, on est dans une ville divisée, faut le savoir.
Ah oui ?
Ah oui, footballistiquement à Valence, on ne sait pas trop où se positionner. Excusez-moi. Valence, ils ont un peu le cul entre trois chaises.
Déjà, c'est pas Valence. Pour qui est cette
déjà,
discussion.
C'est pas Valence. Voilà. Effectivement. Donc, petit sondage. Où sont les supporters de Saint-Étienne, s'il vous plaît?
Ok, il y a.
Grande ville la plus proche, quand même. Enfin, le club le plus proche.
15-20%.
Oui, mais là, on y voit pas. Où sont les supporters de Lyon?
C'est plus.
Okay. Et où sont les supporters de Marseille? Ah voilà.
Un peu plus.
Je pense qu'on est en zone OM.
Tu la moitié.
Tu peux tenter un PSG, ça doit être
le supporter du PSG? Ouais, un peu moins que Saint-Etienne quand même.
Autant que Saint-Etienne.
Ouais, autant que Saint-Etienne.
Autant que Saint-Etienne.
Je dirais 15-15 Saint-Etienne-Paris.
Ah, il y a un mec pour Bordeaux là. Il
dit blanc, il va le dire absolument. Bordeaux, il va être isolé, le pauvre.
Non mais, apparemment, quelqu'un est venu avec un maillot de Valence. Je ne sais pas où il est, le maillot de Valence. Mais voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Il est tout seul.
qui a joué
en joueur de Valence.
Ouais.
Ah.
Valence qui a joué en Régional 1.
Voilà.
Et Valence qui a été en Ligue 2.
Deuxième division. R1, c'est en dessous de Kevin, ça.
C'est deux divisions.
C'est pas terrible alors. Hein.
C'est le stade. C'est le stade Georges Pompidou, c'est ça, Gilbert.
Tout à fait. Stade Georges Pompidou.
Avec une piste d'athlétisme.
Valence est devenue maintenant une ville de rugby, les gars, avec un club en Pro D2. Donc voilà. Donc voilà, constat, c'est quand même l'OM qui l'emporte haut la main. Peut-être que c'est générationnel et que parmi les personnes plus âgées, Saint-Etienne était devant. Peut-être. Bon, en tout cas, on reparlera de tout ça tout à l'heure. On va démarrer avec Jean-Louis. On n'a pas encore le nom du meilleur entraîneur de Ligue 1, mais ça t'inspire.
Jean-Louis va nous le donner.
Mais Jean-Louis va nous le donner peut-être.
Je vais vous donner le mien.
Ça t'a inspiré un avis parce que ces trophées font toujours débattre.
Voilà.
Jingle Jean-Louis Tour.
C'est Captain Europa dans une seconde sur RMC.
Sur RMC, pardon.
C'est un bug.
Bon, c'était vieux en plus. Oui. Bon, alors, déjà, premier préambule, moi je suis pas contre les récompenses individuelles. Je sais que parfois Gilbert a tenu cette position, notamment contre le Ballon d'Or, etc. Moi j'aime bien, globalement, ces discussions, les débats qui peuvent en découler.
Moi aussi, Jean-Louis, je te suis.
Bon, voilà, très bien. Que ce soit un marqueur historique aussi. Donc voilà, pour moi tout ça c'est important.
Arrêtons de combattre les individualités, on n'est pas communistes.
Enfin.
Chacun fait ce qu'il veut, Daniel.
Donc globalement j'aime bien. Là je vois quand même des trucs qui méritent d'y revenir ou d'en discuter. T'as parlé du meilleur espoir bien sûr, qui n'a aucun sens. Meilleur joueur aussi, il y a un ou deux trucs qui me posent problème. Par exemple la présence de Dembélé, qui est le 11e meilleur buteur en Ligue 1, qui a joué que la moitié des matchs. Bon voilà, ça c'est un peu le vote au nom, sans trop se prendre la tête, sans trop réfléchir. Mais
c'est
voilà.
Toujours répondre à la question qui est le meilleur joueur en absolu. Bah oui, on sera tenté de dire Dembélé, Gvara.
Mais quand tu regardes vraiment
dire
la saison,
le meilleur joueur de Ligue 1 sur ce que tu as fait pendant la saison. Oui, c'est des joueurs qui ont été intermittents pour des raisons précises, c'est blessures. Ils ont fait partie d'un turnover et ils ont été préservés pour une autre compétition. Voilà,
exactement. Et là où je pense qu'il y avait une discussion intéressante à avoir, c'est sur le trophée de l'entraîneur, parce que pour moi, en Ligue 1, Luis Enrique et les autres, ils font pas le même métier. Ça vaut pour les quatre autres d'ailleurs, hein, que ce soit Fonseca, Sage, Pantaloni ou Genesio. Je pense qu'ils font pas le même métier et donc j'ai du mal à les comparer dans une même catégorie pour deux aspects. Déjà, même si c'est plus le PSG de Messi, Neymar, de ce genre d'individualité, je pense quand même que coacher des grands joueurs confirmés ou en train de le devenir année après année, c'est pas la même chose que diriger un groupe plus jeune avec des joueurs qui découvrent la Ligue 1. Certains sont même en post-formation. Je pense que c'est pas exactement le même exercice au quotidien. Sur Luis Enrique, j'ajoute quand même que la Ligue 1, ça a pas été sa priorité. On l'a vu clairement. Première moitié de saison, c'était la variable d'ajustement, les blessés, les répartitions de temps de jeu pour se refaire une santé physique. Et depuis les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, chaque match après la Ligue des Champions, il fait tourner quel que soit l'adversaire. Donc c'est sa variable d'ajustement et ça a rien à voir avec les autres coachs qui jouent leur vie à chaque semaine, chaque week-end. Et deuxième point, c'est le financier. C'est le point clé du raisonnement parce que les moyens sont incomparables entre Luis Enrique et les autres, surtout en cette période de crise. L'écart s'est agrandi avec la crise des droits télé et Luis Enrique, il va chercher le titre avec donc beaucoup de remplaçants. Et j'ai regardé sur les 10 joueurs les plus utilisés, mais il y a des transferts que aucun autre club ne peut faire. Zabarni 60, Hernandez 45, Barcola 45, même Kanginli 22, Beraldo 20, Chevalier 55 millions. Donc tout ça pour les autres clubs de Ligue 1, même pour des remplaçants, c'est énorme. Et puis sur le mercato, Luis Enrique a le droit à l'erreur, alors que les autres ne l'ont pas. Gonzalo Ramos, Colomouani, bien sûr, on les a en tête. Là où pour les autres, un pari financier raté et tout devient catastrophique pour le reste de la saison. Donc, évidemment, je ne remets pas en question ce qu'a apporté Luis Enrique au PSG. C'est le meilleur de l'histoire du club. Mais c'est pas cette cérémonie-là de le matérialiser. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut, pour cette catégorie, faire un espèce de ratio position au classement, moyens financiers. Et si on fait ce ratio, c'est Pierre Sage qui mérite clairement de l'avoir.
Florent, est-ce que tu es d'accord avec Jean-Louis ?
Ouais, alors je suis d'accord surtout cette année en fait. C'est-à-dire que d'abord tu seras peut-être validé par les faits parce que on ne sait pas qui est le meilleur entraîneur alors qu'il est, donc ce sera peut-être Pierre Sage qui va être désigné. Il y a peut-être peu de chance, mais ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que
je rappelle que c'est les entraîneurs qui votent pour les entraîneurs.
Ouais, tout à fait.
Ça peut avoir son importance.
Mais moi, ce qui me gêne en fait, c'est que pourquoi je reviens au début de ton raisonnement sur les récompenses individuelles. Moi, je suis pas trop pour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la règle n'est jamais très claire. C'est-à-dire, comme a dit Daniel tout à l'heure, qu'est-ce que tu récompenses ? En fait, les entraîneurs qui votent pour les autres entraîneurs, parfois ils disent « Ah non mais, même s'il a délaissé un peu la Ligue 1, pour moi, Luis Enrique, c'est un modèle incroyable, je vais voter pour lui. » Tu sais pas s'il vote vraiment selon ton raisonnement à toi, qui est de dire « Attention, les budgets sont différents, les effectifs sont différents, le travail de machin est plus valorisable que d'autres. » Donc en fait, à partir du moment où tu n'as pas fixé de règles particulières, que tu balances comme ça des trophées en disant « On fait de l'individuel », comme disait Daniel aussi pour l'âge de Désiré Doué, peu importe, il l'a déjà eu, c'est plus un espoir de Ligue 1, mais on met son nom, oui, parce qu'on l'aime bien, il est bon, on va le mettre, on vote pour lui, ok, il a le trophée. Moi, je remets en cause ces récompenses individuelles pour ces raisons-là. C'est parce que les gens qui votent, et on s'en était rendu compte les années passées aussi avec les joueurs, parfois, il y avait des votes un peu improbables, les gens qui votent ne tiennent pas compte de tous les raisonnements que tu as pu tenir là dans ton avis tranché.
C'est sûr.
Donc en fait, si tu veux, oui, on peut être d'accord, mais si ces règles étaient fixées, dans ce cas-là, par exemple, Luis Enrique ne devrait même pas être nommé dans les meilleurs entraîneurs, parce qu'effectivement, tous les autres entraîneurs que tu as cités méritent de l'emporter. Après, le petit bémol que je mettrais par rapport à cette année, c'est que Luis Enrique, tu l'as dit toi-même, il a quand même fait jouer beaucoup de remplaçant, il a quand même fait énormément tourner et à ce titre, il s'est quand même rapproché, on va dire, la preuve avec le classement du niveau moyen, il a laissé une porte, on va dire, ouverte à la concurrence et à Lens. Donc cette année, à la limite, il s'est plus rapproché du combat des autres entraîneurs, même si tu l'as dit, les moyens sont toujours différents. Donc je suis d'accord avec toi, sauf que moi, cette cérémonie, contrairement à vous, elle m'intéresse pas vraiment. Je suis un peu sur la ligne de Gilbert comme sur le Ballon d'Or. À partir du moment où les règles sont tellement diffuses, ouais, on peut mettre n'importe qui. Moi, j'aime bien, j'adore Désiré Doué. Je vais voter Désiré Doué. Moi, j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup.
Moi, c'est magique. C'est juste maintenant.
L'entraîneur.
Ouais. Ah. C'est juste maintenant et c'est Pierre Sage.
Bravo, l'entraîneur. Voilà.
Il est venu avec un bon nœud papillon, Pierre Sage, et voilà. Et ben.
Il a un nœud pape.
Ouais.
Oh, je veux voir ça. Moi, qui me moque toujours de lui avec ses suites là.
Non, il est venu en costard en.
Oh, je vais lui envoyer un message tout de suite. Attends, t'en montres-moi mieux comment il est habillé. Oh là là.
Je montre à tout. Je sais pas si vous voyez grand-chose.
On dirait James Bond. Bien.
Alors, je ne sais pas dans lequel James Bond.
Le James Bond.
James Bond, il a souvent un smoking.
Ouais, mais il est un peu plus affûté.
Ça suffit.
Un peu plus affûté.
James Bond, il est là. Je te signale. Daniel Craig, il est là. Respect.
Moi, j'ai jamais vu Flo en costume. Je sais pas comment il le porte.
C'est plutôt Daniel Craig.
Le smoking, t'as vite fait donner l'impression que
t'as un serveur, on te demande de café l'addition.
Bah là, c'est un peu le cas, ouais. Et voilà. Bah, non, mais tu vois, pour terminer, la preuve, c'est qu'on ne savait pas avant. Exactement. On aurait pu se dire, tiens, c'est Luis Enrique, parce que, évidemment, il est champion de France. Et en fait, les entraîneurs ont pris en compte, on va dire, quelque part, tes arguments. Mais pour moi, cette cérémonie, malheureusement, à part peut-être, je jette un œil, j'ai regardé celle de Ligue 2 à l'équipe type. Ça m'intéresse de voir un peu comment tu constitues une équipe type. Une
avec
équipe
la réserve, collective. Parfois on fait rentrer des joueurs parce qu'il faut les faire rentrer et ça ressemble pas à grand chose dans
et
le.
Et je vais juste te mettre un autre truc qui va dans ton sens, enfin qui va dans nos deux sens sur cette cérémonie qui me gêne, sur les joueurs, les meilleurs joueurs. Esteban Le Poll, puisque j'en ai beaucoup parlé. Ouais, ça me gêne.
En train de lui envoyer un message là.
Ouais, j'envoie un message à Pierre Sage.
D'accord.
En direct. Il est énorme ton smoking.
Voilà, il a pas son téléphone.
Tu hein. diras sa réponse surtout avant minuit.
Oui, je suis pas sûr.
Il a quelques interviews à faire avant. Non, juste Esteban Le Poll, il est meilleur buteur de Ligue 1. Enfin, il va être meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 buts, 5 passes D. Il apparaît nulle part. Moi, je veux bien, mais ça me paraît bizarre sur une saison comme ça que lui apparaît nulle part. Moi, sur
le. Est-ce qu'on a terminé parce que vous êtes parti et tout, mais moi, j'ai le droit de donner mon avis sur l'avis de Jean-Louis.
C'est la première fois
posé ton téléphone.
Dans le début de l'émission.
Après, Daniel, si t'as du mal à t'imposer, on peut t'aider.
23h16, il a rien dit. C'est la première fois en 20 ans. Bravo.
Non, mais pardon, mais. Quand tu dis Jean-Louis, c'est pas le même métier, peut-être, je le comprends, mais ça veut pas dire que c'est plus simple. À mon sens, quand tu compares
non,
et Luis Enrique, ça ne veut pas dire que c'est plus simple. Ça, c'est le premier point. Et je vais défendre néanmoins par rapport à ton avis, Luis Enrique, même si, pas de problème, je suis de l'avis du football français. Je le donne à Pierre Sage pour cette année, parce que...
Sur les moyens financiers, c'est plus simple quand même. Je reviens à ton début quand même.
Je ne sais pas, les moyens financiers.
Ah, quand tu parce peux te rater à ce point, quand tu as des joueurs aussi chers qui arrivent, même pour être remplaçant.
Pour moi, la clé n'est pas forcément le moyen financier. Que le moyen financier te permette d'avoir des meilleurs joueurs, oui. Encore faut-il réussir le choix et l'assemblage.
C'est pas une assurance.
Et là où Luis Enrique est fort, c'est que...
Daniel, juste un mot. Après, je te laisse. Pour aller dans ton sens sur ça, pas plus simple, parce que Luis Enrique n'a qu'une place, n'a droit qu'à une place, la première. Pierre Sage, il a droit à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc...
Là, je fais court. Hein.
Oui. L'assemblage.
Ce soir.
L'assemblage, c'est très important. Donc, ça nécessite qu'un entraîneur soit assez fort pour que le directeur sportif et que tout le club le suive. C'est ce qui s'est passé avec Luis Enrique, ce qui n'était pas le cas avec les entraîneurs d'avant. Donc, ça, il a réussi à imposer sa volonté. Et en ça, il a été très fort. Et ensuite, même dans la première partie de saison où, on a vu un PSG, qui n'avait pas l'air de penser, on en est même certain, c'est même pas avoir l'air, on est certain que la Ligue 1 n'était pas une priorité, enfin qu'on était en mode gestion, les intentions étaient les mêmes et l'équipe répondait de toute façon à sa volonté. Et ça, c'est fort parce que il a canalisé tous les problèmes de vestiaire qu'il n'a pas eu beaucoup, mais bon, on répète que l'année dernière, en 2024, à l'automne, ça a été un peu compliqué. Il a réussi à passer cette étape et derrière à emmener tout le monde comme un chef de bande et que cette bande, elle reste soudée maintenant depuis 15 mois qui sont absolument formidables. Donc, OK pour Pierre Sage sur la Ligue 1 pour un tas de raisons, parce que Lens a également été en reconstruction et qu'il a participé à cette reconstruction, qu'il a fait un parcours incroyable où il a, jusqu'à début avril, joué le titre avant de perdre contre Lille. Pour moi, c'est là le tournant pour Lens. Si jamais il battait Lille dans ce derby, il était encore aujourd'hui en train de jouer le titre. Et ça aurait été absolument incroyable pour Pierre Sage. Donc, saison extraordinaire, il mérite la récompense. Mais Luis Enrique, comme a dit Flo, OK, lui, il n'a le droit qu'à la première place, sinon on le critique. Mais ce qu'il fait depuis 15 mois, je peux comprendre que ce soit félicité par toute la famille du football français.
Pierre Sage qui dit « J'ai une pensée pour les éducateurs qui nous ont quittés cette saison, Jean-Louis Gasset, Roland Courbis, dont la formule « un entraîneur doit être entraînant » m'a toujours marqué », a-t-il dit ce soir.
Pierre est toujours formidable, toutes ces phrases, il a...
Mais en revanche, par rapport à ce trophée, c'est vrai que c'est marquant. Et pour Pierre Sage lui-même, Pierre Sage c'est un mec récent dans la profession, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard, qui le dit lui-même et qui veut pas perdre de temps maintenant parce qu'il a la sensation de finalement d'avoir déjà grillé quelques années et de voir que les autres coachs le reconnaissent, je pense que pour lui par rapport à ce parcours, tu sais l'idée du prof de sport, le mec un peu décalé, c'est une reconnaissance qui va être capital pour lui.
D'ailleurs, on sait que Textor lui faisait pas confiance, pas loin
de le virer.
Que ce soit uniquement sur son apparence et sur ce qu'il dégageait.
Absolument.
En disant c'est un formateur, mais il a pas les épaules.
Est-ce que c'est pas aussi un signal pour les entraîneurs français au moment où il y avait un recul des entraîneurs français, il y avait beaucoup d'étrangers en Ligue 1, Là, c'est un Français. Peut-être que ça peut ouvrir d'autres portes.
J'en vois pas des tonnes derrière. Pierre Sage s'est véritablement imposé en peu de temps parce que on a participé aussi à l'ambiance très sceptique autour de lui. La phrase de prof de sport, c'est moi. C'est pour ça qu'il m'avait envoyé le sweat rouge là d'ailleurs. Derrière, il a
démontré... Ah, tu l'as le sweat?
Derrière, il a démontré qu'il a totalement, non seulement pris ce métier à bras le corps, mais il en a fait une réussite en très peu de temps. Il s'est imposé. Sa personnalité, qui n'est pas exubérante, on a l'impression de, on n'imagine pas Pierre Sage crier dans un vestiaire. Preuve que ça doit pas tout le temps être la clé, peut-être, de crier dans un vestiaire ou de taper les mains et de dire qu'il faut mettre les burnes sur la table.
Je mettrais une petite différence. Il ne crie jamais dehors. Mais on l'a vu crier dans un vestiaire et mettre ses mecs minables.
Je ne doute pas de sa capacité à marquer son autorité. Mais c'est pas quelque chose qui ressort quand tu parles de lui. T'as l'impression d'avoir quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi, qui est beaucoup plus dans l'intellect et qui, puisqu'il parlait de la phrase de Roland, il entraîne les joueurs derrière lui. Il a réussi à Lyon. On peut le dire. C'était une réussite. Il réussit à Lens. J'espère, moi, pour ma part, même s'il a envie de faire autre chose de sa carrière, et s'il a une proposition en Angleterre, peut-être, je sais pas à qui il ira. Si moi, on me demande mon avis, j'aimerais bien qu'il reste à Lens et qu'il tente la Ligue des Champions. Maintenant, si Lens vend beaucoup de joueurs et qu'il est un peu...
Et qu'il est sollicité. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il reste là.
Alors oui, il est, il est sollicité.
On en a parlé dans l'after vendredi.
Il est sollicité, mais votre avis, si... Maintenant que Lens va jouer la Ligue des Champions, est-ce qu'on n'a pas envie de le voir? Mais je peux comprendre que parfois il y a une frustration pour un entraîneur qui dit « Ok, j'ai qualifié l'équipe, mais si on n'a pas les moyens de renforcer l'équipe et que les deux matchs par semaine, on va se fracasser là-dessus parce que tout le monde se fracasse chaque année là-dessus », je peux comprendre que ça engendre une frustration chez lui au moment de prendre la décision.
Moi, je pense...
C'est beau l'histoire, elle a l'air toujours très belle, on y va, on continue l'aventure tous ensemble, mais si tu lui enlèves Malanxar, Sangaré, que c'est pas totalement remplacé tout de suite... Thomasson a déjà annoncé son départ. Oui.
En fait, je pense justement, après y avoir réfléchi, on en a parlé vendredi dans l'after, et je parlais du ticket Lorenzi, à l'époque je savais pas, j'avais pas l'info, Lorenzi Sage, parce que je me suis dit, tiens, pour le coup, ce serait un ticket qui est à Marseille, qui me parlerait. Une proposition comme l'OM ou une proposition anglaise, moi je dis justement par rapport au parcours que j'ai décrit de Pierre Sage il y a quelques minutes, il y a pas de temps à perdre quand t'es Pierre Sage, et je pense que dans sa tête c'est pareil, il y a pas de temps à perdre dans sa carrière. Et deuxièmement, ce que t'as dit, le contexte, il ne pourra pas faire mieux l'an prochain que ce qu'il a fait cette année. Il ne pourra pas faire disputer le titre avec Lens qui va jouer la Ligue des Champions et deux matchs par semaine.
Mais est-ce qu'il aura beaucoup d'occasions dans sa carrière de faire la Ligue des Champions? C'est pas sûr non plus.
Donc moi, je pense que oui, sauf que si un club qui joue la Ligue des Champions et qui a plus d'ambition et de moyens vient taper à ta porte dans ce cas-là et que tu sais que tu feras pas mieux à Lens et que les joueurs commencent à partir les uns après les autres, si tu fais l'analyse d'une saison post surperformance comme celle de Lens, tu sais que ce sera moins bien l'année d'après.
Top équipe type de la Ligue 1, je vous la donne vite fait.
Vas-y.
Ah bah non, je l'ai plus à l'écran. On va appeler Clément Brossard.
J'allais te répondre sur les entraîneurs français. Il y en a quand même. Rien que sur le top 5, on peut ajouter quand même Genesio. Alors il n'est pas dans la jeune génération d'entraîneurs.
On parle de genre de mec. Génération là, tu me sens.
Oui, non, mais déjà. Oui, mais quand même sur les entraîneurs français qui arrivent à avoir des résultats. Francaise, tu le mets où? Tu le mets dans l'ancienne génération, dans la nouvelle?
Non,
lui aussi quand même, il fait partie.
Habib Bey, tu le mets nulle part?
Bah, il était dans la nouvelle génération, oui.
Trop tôt.
Trop tôt et trop compliqué. Mais je pense
en Ligue 2, il y a des jeunes qui montent, Poirier du Red Star, Le Mans.
Videra.
Non, ce qui a profondément changé, surtout sur les dernières années, c'est que tous ceux qu'on a maintenant ont des intentions de jeu qui sont complètement différentes. On a une Ligue 1 qui a été complètement bouleversée, où très honnêtement, quand tu regardes les matchs le week-end, sur les neuf, honnêtement, il y a plus de la moitié. C'est des matchs intéressants à suivre. Il y a du foot.
Ils se sont modernisés.
Que ce soit dans leur com, dans leur façon d'expliquer ce qu'ils veulent faire.
Ils ont même
dans le visage qu'ils donnent à leur équipe. Et même avec des équipes qui se sont appauvries, où t'es obligé de faire jouer des jeunes, la façon dont ils les emmènent à se libérer, à jouer, forcément, tu perds des moyens, tu perds de la technique, mais on arrive encore à le dissimuler, ça se voit pas, et on a un championnat de qualité grâce à ça.
Moi, ce qui m'intéresse juste pour terminer, c'est que ces entraîneurs là dont tu parles, Daniel, on va dire plutôt les têtes de liste, Sage, Aize et compagnie, ils ont déteint aussi sur d'autres. Et je pense à ceux de Angers et du Havre, par exemple, Digard et du jeu, qui arrivent à faire avec des moyens, puisque Jean-Louis parlait des moyens, ils arrivent à faire des choses qu'on loue souvent dans nos émissions. Donc c'est vrai que, à mon avis, c'est quand même une génération particulièrement intéressante. Et c'est vrai qu'il y a des coachs français, mais on a oublié quand même de citer le grand espoir, celui qui a révolutionné le Stade Rennais cette saison, c'est Tambouré.
Bien sûr.
Qui n'a pas été cité dans les... dans l'UNF.
C'est un scandale. Bon, et puis vous avez tous un point commun avec Pierre Sage ici, c'est que c'est un auditeur de l'After. Voilà. C'est vrai. Dans un instant.
Ah, c'est pas pour ça que j'ai fait cet avis, hein.
Ah bon?
En tout cas, je l'ai pas conclu comme ça.
Très bien.
Juste parce qu'il aurait
pu.
Non.
Dans un instant.
Je suis objectif.
Vu qu'on parle des coachs, on va revenir sur ce qui se passe autour d'Habib Bey quelques minutes. D'autant que Christophe Duguerry en a parlé tout à l'heure dans Rotten sans flamme. Et puis, donc, l'équipe type de Ligue 1, on vous la dévoile dans quelques instants et on va voir si on est d'accord ou pas. Dans l'after, on se retrouve tout de suite en direct du cinéma Pâté de Valence, que l'on remercie encore pour son accueil ici avec vous tous dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, les 20 ans de l'After Foot en direct de Valence.
Gilbert Bribois.
Il est 22h28 et l'After est à Valence ce soir avec vous tous au cinéma Pâté. Notre tournée continue, on a été à Clermont, à Toulouse, à Angers, au Mans. Où est-ce qu'on a été encore? À Orléans. On a globalement guigné personne.
Chambéry.
À Chambéry.
Le Mans, honnêtement, c'est une pure folie, quoi.
Et d'ailleurs, le mois prochain, nous serons à Valenciennes. 1er juin.
Valenciennes, on va rien leur apporter que le non. Mans. On a fait bénédiction papale. On est arrivé, bim, Ligue 1.
Ils devaient encore se maintenir, Valenciennes, je crois.
Ils ont encore un enjeu, Valenciennes.
Ils ont un enjeu, je crois. Mmh.
Avant de parler de l'OM et d'Habib Bey et de l'info directeur sportif qui vient d'arriver là dans quelques secondes, Clément Brossard pour l'équipe type de la Ligue 1. Clément, on t'écoute.
Oui, exactement. Et j'ajoute aussi que Patrick Vidéra n'a pas été élu meilleur entraîneur de Ligue 2 du Mans. Et ça, c'est un scandale. Mais c'est autre chose. Alors, c'est l'équipe qui, type de, c'est Stéphane Dumont, sacré champion de Ligue 2 avec 3. Mais bon, 2 montées successives pour un homme qui avait jamais connu la Ligue 2. C'était tout de même incroyable. L'équipe type de Ligue 1 avec 5 Parisiens, messieurs. Robin Risser, donc dans la cage, élu meilleur gardien de Ligue 1 il y a quelques minutes. Hakimi, Malang Sarr, le Lensois, Pacho, Nuno Mendes. Voilà pour les défenseurs. Au milieu de terrain, on retrouve Corentin Tolisso, Vitina et Sangaré, le Lensois. Et devant, une ligne d'attaque avec Florian Thauvin, Ousmane Dembélé et Mason Greenwood.
Quoi ? Ils ont mis Corentin Tolisso alors que Didier Deschamps est dans la salle ?
Exactement. Et les deux se sont regardés, d'ailleurs.
Ils ont mis 4 Lensois.
Ils affrontaient
un par ligne, quand même. Bon, ils sont deuxième, mais c'est vrai.
C'est quoi le milieu ? Tolisso,
Sangaré, Tolisso, Vitina, Sangaré.
Sangaré, Vitina, ouais.
Bon, il n'y a pas de scandale. Là.
Non, c'est une belle équipe type, non, c'est vrai.
Ouais. Attends, en attaque, t'as Dembélé et qui?
Thauvin, Dembélé, Greenwood.
Et il n'y a pas le Paul.
Ouais.
Il n'y a pas Esteban.
J'ai dit tout à l'heure qu'il méritait quand même une récompense, mais bon, peu importe, il sera meilleur buteur. Après, derrière.
Greenwood, honnêtement, je ne sais pas.
Dembélé sur la Ligue 1.
Oui, mais c'est ce que je disais dans mon avis. Je disais Jean-Louis tout à l'heure, sur la Ligue 1 cette année, non.
Hakimi, pareil.
Sur le potentiel et sur ce qu'il est.
Hakimi,
par exemple. Il fait 20 matchs d'Mbélé et il a que 10 buts marqués en Ligue.
Tu vois, par exemple, Mathieu Udol aurait mérité, à mon avis, cette année, d'être dans une équipe type de Ligue 1.
Oui, Udol, il peut être arrière-gauche, oui, bien sûr. Ouais.
Bon, donc on est d'accord sur le milieu, mais il y a quelques retouches à faire, quoi, pour résumer.
Bah, disons que tu
Greenwood, je suis pas sûr de le mettre cette année.
Greenwood, heureusement pour lui que ça a été fait tôt dans la saison. Tu vois, s'il y avait les dernières semaines en plus.
Oui, parce que les votes sont bouclés depuis plus d'un mois.
Oui, et ça aussi, c'est très bizarre quand même.
Alors, mais malgré tout, sur Greenwood, je trouve que dans l'ensemble de la saison, par rapport à la qualité d'un joueur Ligue 1, pour le coup, et de ce qu'il a fait sur les terrains de Ligue 1, on a dit longtemps dans l'after, c'est le meilleur joueur que la Ligue 1 est en ce moment. Ouais. C'est lui le plus impressionnant.
Ça fait très longtemps qu'on
a
C'est au mois de septembre, ça.
Bon alors, on était sur les coachs, on va y rester. On va parler de Bey dans quelques secondes. Mais autre info OM que nous envoie Florent Germain, là, il y a quelques secondes. Il nous dit que Grégory Lorenzi sera le prochain directeur sportif de l'OM. Donc, Lorenzi qui vient de Brest arrive à Marseille. Il va donc remplacer Mehdi Benatia. Donc, c'était dans les tuyaux, évidemment, depuis quelques jours.
Attends, c'était dans les tuyaux.
C'est annoncé par Florent
Je répète qu'on était au-delà de l'accord verbal avec Nice. Donc là, vraiment, on l'a intercepté sur le trajet, sur l'autoroute.
Les Niçois ont dû apprécier, d'ailleurs.
On l'a vraiment attrapé en
niveau de vie d'Auban sur la 8.
Et je peux t'assurer que c'est des gens très au courant qui disaient, c'est fait, il va à Nice. Hein. Donc vraiment, on l'a attrapé avant la signature.
En fait, il y a eu un meilleur contrat, d'une part, évidemment, meilleur intérêt évidemment, pour le projet marseillais.
On peut comprendre. C'est juste que j'expliquais qu'on l'a attrapé au dernier moment.
D'autant que Nice, entre-temps, a encore un peu plus dégringolé au classement et peut éventuellement passer par les barages.
Oui.
Ça rentre
surtout que Nice n'en a plus de directeur sportif. Flo Maurice part.
Donc ça veut dire qu'eux aussi, il va falloir qu'ils en trouvent un.
Mais bon, moi je comprends le choix.
Il sera en fonction le 2 juillet, donc c'est le premier choix de.
Moi je trouve que c'est un bon coup de Stéphane Richard déjà, puisqu'on parlait, c'est son premier coup de président.
Honnêtement, j'adore ce qu'il a fait à Brest, hein, mais aujourd'hui dire à l'OM c'est un bon coup, je ne sais pas ce que ça veut dire.
On jugera après. Mais moi, sur le choix du DS, on a dit depuis quelques semaines, le premier choix important, ce sera le choix du DS. Je ne trouve pas que ce soit un mauvais choix.
Je ne vais pas te dire que c'est un mauvais choix, je ne vais rien te dire. Sur l'OM, en fait, avoir un avis, c'est extrêmement
délicat.
Sur l'OM,
je te parle en tout cas du choix du DS. Tu es Stéphane Richard, tu dois choisir un DS en France. Il se trouve que Greg Lorenzi est là. Effectivement, il l'a intercepté alors qu'il est à Nice. Le travail qu'il a fait.
Il y a Jean-Louis Leca qui est bien aussi.
Les choix qui. Oui, mais il a refusé a priori. Il aurait été sur une shortlist aussi. Et Greg Lorenzi, moi, je l'avais dit, là, j'en ai parlé dans l'after. Je pense qu'effectivement, tu as raison, je ne sais pas si ça va marcher.
Et quel message ça envoie? Donc, il a un beau CV. Est-ce qu'il a un réseau international? Je ne sais pas. Est-ce que ça envoie le message que l'OM baisse ses ambitions et ils vont devenir actifs sur un marché un petit peu plus français, sur des joueurs moins chers?
Moi, c'est ça le message surtout que je reçois.
Mais c'est pas un mauvais message pour l'OM.
Ah, mais je te dis pas que c'est un mauvais message. Je cherche à comprendre quel est le message. Je pense que le message est clair là.
D'ailleurs, moi, je serais pas étonné qu'il y ait un entraîneur français qui arrive sur le banc aussi.
Ah, mais de toute façon, Stéphane Richard a dit qu'il voulait un français.
Ils veulent un français.
Donc, à l'arrivée, c'est le virage. De toute façon, dans la gestion de nos gros clubs, enfin des clubs de haut de tableau, c'est tout le temps les mêmes virages. On est sur un étranger et puis ça va pas. Là, ça fait quelques années que l'OM fait avec un entraîneur étranger.
Entraîneur français pour l'OM. Honnêtement, à part Genesio ou faire revenir Galtier, je vois pas de solution.
Pierre Sage.
Non,
il y a pas de solution.
Hervé Renard.
Galtier, ça semble quand même.
Kevin Diaz.
Kevin Diaz, non, il est directeur sportif.
Ah c'est Loïc là qui s'exprime. Salut Loïc.
Bonjour l'after.
Loïc, supporter de l'OM, comme le montre ton magnifique maillot. Il est récent celui-là.
Ah, il est de cette année.
De cette année.
Une formidable saison.
Formidable sponsor.
Jusqu'en décembre.
Quand tu entends l'arrivée là, de Lorenzi, tu dis quoi, toi?
Alors, moi, je prends pour un recrutement plutôt Ligue 1 pour Marseille. Après, on verra, puisqu'on ne fera certainement pas la Ligue des Champions, c'est sûr. L'Europa League, pas sûr. Et la Conférence Ligue, ça va être limite aussi. Donc, peut-être faire ce que a fait un club que je n'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça, Lyon. Il y a quelques années, qui recrutaient beaucoup de joueurs en Ligue 1, qui ont progressé comme ça. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient une équipe, ils ont fini presque relégable, il me semble, sur la fin de saison. Ils ont recruté malin.
À Marseille, Strasbourg, tous les joueurs ne sont malin. Pas à mettre à la poubelle. Hein.
Comment?
À Marseille, tous les joueurs sous contrat ne sont pas à mettre à la poubelle.
Non, pas tous.
Il y en a
tous.
Quand même, à mon avis, avec qui tu peux encore construire quelque chose. Certes, il y a un coup de balai à passer, mais tu dois encore pouvoir te servir d'un peu de cet effectif-là, quand même.
De certains, oui, je suis
surtout
d'accord.
Surtout que ça va pas être simple de tous les sortir, hein. Donc, t'as du contrat quand même, là.
Mais après, je pense que recruter Ligue 1 sur 3-4 joueurs, après, bien sûr, à l'étranger, ça peut être bien, mais 3-4 joueurs qui sont plutôt intéressants cette année sur la Ligue 1, notamment, je trouve, Strasbourg. Bon, Barco, on sait qu'il y en a pas, mais.
À Strasbourg, ils ont pas fait un recrutement français.
Vous n'êtes pas prioritaire.
Il a pas dit français, il a dit Ligue 1.
Que l'OM.
Le joueur de Strasbourg est cher, hein.
Oui.
Le joueur de Strasbourg est cher.
Mais pourquoi pas quelques joueurs de Ligue 1 qui pourraient renforcer, quoi.
Pour revenir à ce que tu disais, Daniel.
Morera a parti à Strasbourg. Il voulait pour aller à l'OM.
Oui, Morera, moi j'y pensais justement.
Je n'ai pas de certitude sur le fait qu'il réussisse parce que personne n'en a à l'OM. Mais sur l'idée d'une stratégie, comme disait Jean-Louis, d'un virage qui est logique. Stéphane Richard l'a dit, tu veux plutôt un entraîneur français, tu mets un DS français, comme tu le dis toi Loïc, tu préférerais aller sur des recrutements Ligue 1. C'est pas la peine d'aller voir sur des projets incroyables. Tu dois stabiliser le club dans un modèle plus simple, plus efficace. Donc Lorenzi, il sait faire ça. Je te dis pas que je sais pas s'il va réussir. Je te dis juste que ces réseaux-là, les fameux réseaux Ligue 1, il les a, c'est sûr.
Je pense que le vrai problème pour l'OM, je sais pas si c'était l'objet du débat de ce soir, parce qu'avant que la saison reprenne, on aura mille fois l'occasion d'en reparler. Mais ce qui a fait exploser l'OM cette année, encore une fois, c'est pas coach, directeur sportif, joueur, c'est l'environnement mal géré. C'est là que ça a pété. Quand la saison terminera, je raconterai tout ce qui s'est passé autour de Deserbi et comme il est devenu fou, c'est une mauvaise gestion de tout ce qui s'est passé autour du club. On va en parler dans un instant
avec Bey. Des dirigeants, de l'entraîneur, des joueurs.
Toutes les histoires parallèles en fait.
Voilà, mais on est plus dans ce qui s'apparente à une quand tu dois gérer ton environnement, c'est la com et comment tu acceptes la critique extérieure, comment tu vis avec. Et c'est là que De Zerbi est devenu fou. C'est qu'il n'a pas su vivre avec.
Oui, ça, je suis d'accord. Et là où tu as raison.
Et Abibay est en train de vivre la même chose. Et à un moment, si on ne trouve pas à Marseille comment vivre avec l'environnement. Je peux t'assurer que tu peux faire défiler tous les entraîneurs du monde et les directeurs sportifs, parce que je pense que en matière de réseau pour faire venir des joueurs et faire partir des joueurs, Mehdi Benatia a été une personne idéale. Je pense que De Zerbi n'est pas un mauvais coach. Sauf qu'il est devenu fou. Ça arrive. Il y en a plein de gens qui psychologiquement s'écroulent.
C'est pour ça
c'est ce qui s'est passé avec lui.
C'est pour ça que dire on veut recruter Ligue 1. Il y a eu le projet Dortmund.
Tout ça pour moi ne veut rien dire. On a eu comme tu l'as dit à l'époque de la Brune, c'était projet Dortmund. C'était là aujourd'hui on a par exemple Olivier Létang qui dit il y aura pas d'entraîneur français à Lille. Bonne méthode, pas bonne... j'en sais rien, mais dire ce genre de choses-là, pour moi, je comprends même pas. Donc aujourd'hui, c'est bien Lorenzi tout, bah, tout ce qu'il a fait pour l'instant. Lorenzi, t'as juste à lui dire merci monsieur, venez, prenez le fauteuil, on verra bien quoi. Le futur coach, j'en sais rien. Ça peut être Galtier.
Pour moi, l'enjeu juste Flo, il faut que les gens qui ont été compétents avant d'être à Marseille soient compétents de la même façon au club. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Que ce soit les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, à chaque fois, le contexte leur fait trop mal et on n'arrive pas à voir leur meilleur visage. À mon avis, c'est ça tout l'enjeu pour l'année prochaine.
Après, il y a un autre enjeu, et pour avoir vu comment il fonctionnait Greg Lorenzi à Brest, et finalement, ton environnement qui a rien à voir, mais même par goût de la discrétion, on avait dit que le DS devrait aussi être quelqu'un qui incarne le club. Ouais. Parce que quelqu'un doit l'incarner,
lui, ça, hein.
C'est pas lui.
Oui. Lui à Brest, jamais on l'entend.
C'est pourquoi je mets un bémol et je vais dans le sens de ce que tu dis sur l'environnement. La gestion de la com et de la critique, effectivement, Greg Lorenzi, il a pas connu la critique, en gros.
Et il avait une liberté totale avec un président
qui laissait faire. Il disait lui-même qu'il aimait un peu la discrétion, que c'était pas trop
mal.
Et ça, c'est pas possible. Et il faut qu'en tout cas, entre le président, si c'est un Pape Diouf, c'est le président qui prend l'incarnation, très bien. Mais si c'est Stéphane Richard, je suis pas sûr. Donc le foot, c'est soit le DS, soit le coach. Et le coach, faut lui laisser toute la partie déjà sportive.
Tant
donc
que ça
c'est
va
le DS.
Marcher et tout, ils peuvent rester dans la discrétion, mais à un moment donné,
c'est pas comme ça. Non, t'as vu, faut sortir. Il faut sortir du bois, faut y aller. On le voit pas beaucoup.
À une époque, on a eu deux directeurs sportifs qui étaient très à la mode. Je me souviens parce qu'on les avait fait pour la revue de l'After quand on avait fait un dossier là-dessus. Il y avait donc Greg Lorenzi et il y avait Flo Ghisolfi. Flo Ghisolfi est un bon directeur sportif qui connaît beaucoup de monde, qui a un très bon réseau pareil. Le travail qu'il a effectué dans les clubs où il est passé, ok. Quand il est allé à la Roma, la dimension environnement-contexte, il a eu beaucoup de mal. Parce que juste, parce qu'il est arrivé à l'aéroport de Rome en poussant lui-même le caddie, ça a donné tellement, sur tous les médias, à Marseille, il y a plein de médias qui suivent.
Et
À la Roma, il y a plein de médias qui suivent le club. C'est devenu un gag. Le mec, l'anonyme, qui arrive et qui pousse lui-même son caddie avec les bagages dessus. Bah, limite de ça, il s'en est parmi. C'est fou.
Bon, enchaînons avec Habib Bey, parce que Christophe Dugarry a parlé de lui tout à l'heure. Alors là, je précise que Pierre Sage, d'ailleurs, l'a soutenu publiquement là, dans ses déclarations lors de la remise du trophée. Il a été l'adjoint d'Habib Bey, hein, Pierre Sage, au Red Star. Écoutez Christophe Dugarry sur Habib Bey, on va dire que c'est assez tranché.
Quand tu fais une saison aussi catastrophique, tu peux arriver en conférence de presse ou en faisant des doigts sur la bouche, en te plaignant, mais te plaindre de quoi que ce soit. Ouais. Tu nous as expliqué, il y a un mois de ça, que tu méritais ton salaire. Ok, pas de problème, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais quand ton bilan, il est aussi négatif, j'aurais aimé que tu réussisses, mais de la manière dont tu parles et que tu transmets les choses, on a l'impression que tu l'es déjà. Non, ne reproche rien aux journalistes. Ne fais pas ce débat qui est ridicule de penser que les journalistes t'en veulent ou quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas mis en face de ton nom entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais t'en es là de ta paranoïa. Alors je connais l'ego de Habib, mais comment tu peux arriver en conférence de presse et parler de toi, de ta personne, que t'as été critiqué, humilié, et ci et là. Mais tout le monde s'en tape.
D'accord avec Dugas, pas d'accord avec Dugas, il va un peu loin.
Il y a des choses qu'il dit qui sont certainement vraies. Maintenant, le contexte était tellement terrible que tu peux comprendre que il est mal pris certaines choses. Surtout qu'il y a clairement, enfin, Christophe, lui, il vit loin, il sait pas ce que c'est que l'environnement, il a certainement pas tout.
Il a joué à Marseille, il y a une période où c'était chaud quand même. Hein.
Honnêtement, notre époque avec les réseaux, c'est un truc de fou.
Ça
doit devenir un métier dans les clubs. Il va falloir que ça devienne un métier dans les clubs, gérer cet environnement-là.
Mais là, Dugas justement est quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux du tout.
Et donc il ne sait pas ce que ça représente que le harcèlement.
Connecté à la vraie vie. J'ai envie de te dire, tu vois.
Oui, non, mais je dis pas qu'il a tort dans tout ce qu'il dit. Néanmoins, quand t'es un entraîneur, t'as le droit de venir te plaindre que les journalistes inventent des histoires. Si si on invente des histoires, non, mais... un jour, si j'invente une histoire, je n'en voudrais jamais à un mec de dire t'as inventé une histoire. Il me le dira et voilà. Et pour le coup, à l'OM, depuis qu'il est arrivé, on en a inventé. Et t'as des gens qui ont réglé des comptes personnellement. On n'a pas entendu Jérôme dans l'extrait. Honnêtement, invite Jérôme dans l'after. Je veux que Jérôme explique le problème qu'il a personnel avec Habib Bey, puisque c'est un problème personnel. Donc invite-le dans l'after, on va en débattre. Mmh. Et Habib Bey, à la fin de la saison, lui répondra. Je pense qu'on va avoir un feu d'artifice d'explication. Ce qui s'est passé depuis deux mois, ça n'a aucune... c'est pas rationnel, en fait. C'est pas rationnel. Et comme j'ai dit hier soir, dire ça, ça veut pas dire qu'il a tout fait bien. Pas du tout. Je dis qu'on est dans un truc totalement irrationnel autour de sa personne.
Après, moi, Daniel, moi, j'entends ça et j'ai vu Habib Bey vraiment depuis quelques jours, semaines et hier soir. Très touché, très fébrile, comme rarement je l'ai vu en conf de presse. On l'a pas vu beaucoup, mais c'était à noter. Donc moi, je compatis avec ça. Cette violence sur les réseaux, elle n'a pas lieu d'être. Moi, je reviens à une critique. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Dugas sur le fond. Je veux pas aller sur la forme. Sur le fond, le problème, c'est que c'est une erreur de communication. Oui. Habib Bey hier soir s'est noyé dans l'exercice qu'il maîtrise d'ordinaire le mieux, c'est-à-dire la conf de presse face au journaliste. Moi, je l'ai vu à Rennes.
Oui, sauf qu'à chaque fois qu'il parlait, qu'il essayait d'expliquer, même là, on le clashait.
Mais sauf que là, il est tellement fatigué qu'hier, il a fait un truc. Il n'a parlé que de lui. En disant justement qu'il aurait fallu parler de l'OM. Il n'a parlé que d'Habib Bey, il a parlé de lui à la troisième personne. Et donc, il ne fait que renforcer l'image du boulard dont a parlé du gars. Vrai ou pas vrai, mais on sait qu'il a une forte ambition, une forte opinion de lui-même, une bonne opinion de lui-même. Tant mieux. Qu'il réussisse, moi je le lui souhaite. Mais en tout cas, il prend le mauvais chemin. Parce que là, effectivement, il ne fait pas comprendre du tout son combat. Et je pense que la communication qu'il croit être son meilleur allié, parce qu'il est très bon sur la forme, est en train de devenir son pire ennemi.
Et encore une fois, je vous dis un truc vite fait. Il est en train de faillir là où normalement il était meilleur que les autres, c'est-à-dire dans l'appréhension du contexte marseillais. C'est là-dessus où il a insisté aussi sur ses premières conférences de presse en disant « Moi, j'ai été joueur là-bas, je sais comment ça fonctionne. » Et en gros, même s'il le disait pas comme ça, je serais meilleur que les autres. C'est en tout cas là-dessus qu'on l'attendait davantage. Moi, je me suis toujours refusé à faire des critiques sportives sur Bey à Marseille parce que je pense qu'il arrive dans un contexte où il est inentraînable, ce club, ou en tout cas cette équipe, pour plein de raisons, conflit avec Mehdi Benatia, etc. Donc, sur le sportif, moi, je me réserve toute critique. En revanche, sur la communication, je suis d'accord avec vous.
Loïc, Habib Bey.
Ouais, Bey, après, hier soir, par exemple, quand il a parlé en conférence de presse, j'étais même triste pour lui. On sent qu'il est atterré de ce qu'il voit sur le terrain. Alors après, je pense qu'il travaille ça et tout, la communication. Peut-être qu'aussi le fait de voir ce que tout le monde voit sur le terrain, c'est pathétique ce qu'on voit. On se fait chier. On s'embête, pardon. Peut-être qu'il a que ça à dire, en fait, du match. Donc au final, peut-être que très agacé. La parano, la psychose sur les réseaux sociaux, sur le fait que Habib Bey, et c'est pas l'entraîneur de Marseille, c'est Habib Bey qui fait ça, et voilà. Peut-être qu'il y a de ça aussi.
Ouais, mais
qui ressort tout. Généralement, professionnellement, ça devrait pas ressortir, quoi.
Quel est le gentilé des habitants de Valence?
Les Valenciens.
Valentinois.
Oh, Flo, toi!
C'est vrai.
On l'excuse. Non, mais normalement, il connaît tous les gentils et trans.
En plus, c'est une équipe de foot. Normalement, c'est
Valentinois.
Non, le truc qui est intéressant.
Ici, on a plus le temps.
C'est sur la com. La com des clubs. Je pense que dans la com des clubs, si hier, Habib Bey avait accepté d'écouter quelqu'un qui le conseille en com, et je suis même pas sûr qu'il ait ce poste-là précisément, on aurait pu lui dire, ne va pas sur ce terrain-là, au contraire, va sur la victoire et le geste de Greenwood, il aurait pu en parler, mais de manière tout à fait apaisée, en disant, vous aurez remarqué au passage le geste de Greenwood, qui, par rapport à tout ce qui s'est dit, parce que l'info, comme dit Daniel, là, il peut aller sur le fond, l'info, elle était fausse, de ce qui s'est passé à l'entraînement, point. Mais derrière, ils ont gagné. Ils ont failli mettre un deuxième but. Ils sont en course pour l'Europe. C'est ça que t'as envie d'entendre en conf. Donc moi, je dis juste que dans ces grands clubs, toutes les fonctions support, toutes les fonctions importantes qui sont autour, les kinés, la com et tout, sont mal payés, sont mal organisés. C'est terrible. Les joueurs sont surpayés parfois.
C'est des
et ces fonctions-là, c'est des fonctions capitales.
Dans les clubs.
Et tu as raison sur la
gestion des réseaux sociaux. Ça, ça vaut un dossier. On pourra ouvrir un autre.
Gros dossier. Et après, il y a un dernier point, c'est que même si c'est bien organisé parfois,
jamais,
avec des gens de la com, un gars comme Habib Bey pense, comme plein d'autres entraîneurs parfois, qui sont suffisamment bons et qui n'ont pas forcément besoin d'écouter ces gens-là. Donc,
Loïc, t'es un vrai Valentinois?
Non. Je suis juste à côté.
D'accord. Mais pourquoi l'OM plutôt que Lyon ou Saint-Etienne alors?
Alors, comme Daniel le disait, on est petit, nos parents nous forment à être supporters d'un club. Et moi, j'ai connu le foot quand j'avais 89, 91, la grande période de Marseille, quoi. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc c'est pour ça que je suis supporter de l'OM.
Très bien, bah c'est valable. Voilà. C'est bon. Tiens, un petit cadeau, je t'offre un des derniers dossiers de l'After.
Eh ben merci beaucoup.
Toujours disponible avec nos amis de Marabout. Merci.
Et c'est bien, si Marseille, je lui donnais couverture Ginola avec le
match. Ouais, c'est cadeau. Content. Ouais,
voilà. Je suis évidemment convaincu pour Paris.
Disponible au Cultura de Valence. Notamment. Merci Loïc. Dans un instant, Lyon au programme. Et puis avant 23h, un petit quiz avec des cadeaux à gagner. Donc restez bien concentrés et révisez votre histoire de Valence. A tout de suite.
RMC, 22h minuit, les 20 ans de l'afterfoot en direct de Valence.
Gilbert Bribois.
Il est 22h49 et on est toujours là au cinéma Pâté de Valence avec vous tous qui êtes venus nous voir ce soir. Encore merci de vous être déplacés, bien sûr, avec Florent Gautreau, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, qui sont tous là. Le meilleur joueur de Ligue 1 vient d'être désigné. Il s'agit de Ousmane Dembélé, sans surprise. C'est Dembélé donc qui a été choisi par ses pairs, hein, parce que c'est les joueurs qui votent. Hein. Donc,
ouais, quand même. Voilà. Alors là, pour le coup, puisqu'on n'est pas d'accord par rapport à ce qu'il a produit en Ligue 1, vous auriez mis qui meilleur joueur de Ligue 1 cette année?
Moi, Vitinha, par exemple. S'il faut mettre un Parisien champion, Vitinha, il a joué tout le temps. Hein.
Il y a beaucoup de Thauvin qui tombent des tribunes de l'After.
Mais s'il faut mettre un Parisien, et après, oui, bon, Thauvin, pourquoi pas. Ouais.
Moi, je pense qu'entre entre Thauvin et Tolisso, ça pouvait, on pouvait trouver là le meilleur joueur.
Tolisso n'était même pas dans les nommés, je crois.
Tolisso, il a porté une équipe quand même. Pour moi, il est le grand homme, le mec qui a pris l'équipe avec lui.
Mérité dans les cinq.
Il l'a emmené. Si jamais Lyon va en Ligue des Champions, Tolisso, c'est. Enfin, c'est le joueur de Ligue 1 de l'année, quand même. Mmh. Et l'équipe, elle est sur son dos. Hein.
Ouais. Justement, on va parler de Lyon quelques instants, parce qu'il y a matière, quand même, peut-être à s'inquiéter. Ils ont craqué hier. Alors, le dernier match, c'est Lyon-Lens. Qui joue demain, après-demain, hein, face au PSG, donc il y aura un match dans les jambes, mais enfin.
Et surtout sa finale derrière.
Okay, bah là, ils vont jouer un peu libéré.
Parce que l'objectif de Lens, maintenant, c'est vraiment le vendredi 22.
Ouais, donc c'est vrai que pour Lyon, normalement.
Normalement.
Bah, non, il n'y a pas de normalement, parce qu'hier, ça devait déjà être normalement.
Ouais, c'est vrai.
Et ça n'a pas été.
C'est vrai.
Et la seule explication à la performance de Toulouse, c'est d'aller dire, ils voulaient dire au revoir à leur coach. Ouais, bah super, ils ont fait un super match, les Toulousains. Et Lyon s'est écroulé, et oui, le vieux fantasme de dès qu'arrive la pression, Fonseca a un souci.
Je suis pas d'accord avec ce truc-là. Mais vas-y, finis.
Ok, non, mais en fait, je suis pas complètement
j'ai l'impression qu'on a
cette idée, tu vois.
Tu sais, quand on a envie de voir un truc, on se force parfois à le voir.
Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'à la fin du match hier, je sais pas, je le vois arriver et tout. Il était. Est-ce qu'il forçait le sourire? Est-ce qu'il jouait la comédie? J'ai l'impression qu'il était presque pas touché par ce qui se passait, comme s'il voulait jouer le rôle du mec pas affecté. Alors peut-être pour garder son équipe motivée pour la semaine prochaine, mais c'est comme s'il arrivait pas à trouver la bonne attitude. Et moi, la façon dont il passe au travers hier, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas par autre chose qu'un déficit psychologique dans l'approche du match. Un peut-être, vu ce qu'on a fait contre Rennes, contre Toulouse, ça va passer. Donc, une mauvaise préparation mentale, un mauvais discours du coach à ce moment-là. Et forcément, le vieux truc derrière Fonseca sur le moment clé où il a du mal à entraîner l'équipe, ça revient. Alors, mais j'aimerais pas, parce que moi j'adore ce coach. J'aimerais pas que ce soit ça. J'aimerais pas constater, honnêtement, si Lyon rate la Ligue des Champions, vu là où ils étaient, pour moi c'est une vraie tâche. C'est une vraie tâche. Même si on dira, vu la saison, vu tout ce qui s'est passé, si jamais Lyon ne bat pas Lens, genre ils prennent un point, ça veut dire qu'ils vont reculer derrière Lille. Je sais même pas, imagine que Rennes aille gagner au Vélodrome. Je pense que ce serait, alors que t'avais victoire à Toulouse, Ligue des Champions assurée. Franchement, je pense qu'à Lyon, ils vont mal le vivre. Et ils auront raison, parce qu'ils seront passés à côté d'un truc incroyable.
Moi, sur l'histoire de Fonseca et de la pression, j'ai du mal avec le raisonnement global, parce que c'est pas parce qu'on l'a vu précédemment que forcément ça va arriver à chaque fois. Et comme je te disais, j'ai l'impression que on est persuadé qu'il gère mal les fins de saison. Alors on est à l'affût du premier faux pas pour dire, ah, vous voyez, on a raison, il gère mal les fins de saison.
À part le constat, je sais pas quoi faire d'autre.
On a commencé à le faire après la série de matchs en victoire, en disant, ah, vous voyez, Fonseca, il n'y arrive pas. À l'arrivée, il a fait 4 victoires de suite et ils étaient 3e à deux journées de la fin.
Buter maintenant.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, cette équipe, elle a pas de marche sur les autres. Donc, il faut être quoi qu'il arrive à 100% pour gagner un match, oui. Même à Toulouse.
T'as retourné un match incroyable contre Rennes. T'as fait un super bon match. Tu vas jouer
très
à Toulouse.
Bon match, bien sûr.
À Toulouse. Oui, mais surtout quand t'égalises.
Oui, mais non, non, mais je suis d'accord avec toi.
C'est verrouilleux le match.
Mais ça peut arriver aussi de faire un non-match. Je veux dire, Genesio.
Non, ça peut pas arriver à la 33e journée, ça peut pas arriver.
Lille, ils ont pas battu Le Havre la semaine précédente. Normalement, adversaire à portée, etc. Et on dit pas Genesio, il arrive pas à gérer les fins de saison parce que la pression, etc. Tu vois. Moi, je pense que ça devait pas arriver. C'est arrivé. Et il était concentré sur le reste. Et après, sur la deuxième partie de ce que tu dis, moi, je dirais pas une tâche non plus énorme sur le bilan de Lyon. Ce serait
pas les Ligue des
c'est un rendez-vous manqué, mais je suis obligé de quand même, à chaque fois, de rappeler d'où ils viennent, etc. Et pas forcément d'où ils viennent.
Jean-Louis, même là. Les d'où ils viennent, ils vont les manger en salade. Si jamais ils ratent la Ligue des Champions, sans déconner, on s'en fout.
Même là, quand
on s'en fout, t'es à la fin de la saison, elle est là devant toi, tu la prends pas.
Même là, il y a un mois, ils faisaient 9 matchs sans victoire et on s'est dit c'est fini pour Lyon cette saison, etc. Ils ont réussi à renverser.
Tout ça, ça va les consoler. Voilà.
Non, mais
c'est pas grave. Ils écoutent Jean-Louis, ils
disent un moment, on peut quand même relativiser les choses un peu, avoir un peu de nuance et réussir à prendre du recul, surtout sur Lyon avec tout ce qui s'est passé quand même.
Florent, moi il y a deux choses. D'abord, je pense
petit bémol.
Le bémol, je suis pas tout à fait d'accord avec Daniel sur Fonseca, enfin avec l'hypothèse en tout cas. Je sais pas si sur un match comme ça là, après les 4 victoires, tu peux dire là ça prouve que ils y arrivent pas dans le sprint final. Il y a 6 matchs, ils en ont gagné 4, ils vont peut-être gagner le 5e, le dernier. Je pense que là pour le coup les joueurs se sont un peu dit que Toulouse, qui avait plus rien à jouer, ça allait le faire assez facilement. Bah
donc, pourquoi tu dis autre chose que moi? C'est exactement ce que j'ai dit.
Oui, mais c'est les joueurs.
Il y a un déficit dans l'approche du match.
Oui, mais pas forcément dû à Fonseca.
Il est là aussi pour mettre en garde contre ce genre d'attitude.
Ça, je suis d'accord, puisque là-dessus, je milite pour le fait que les coachs sont pas dévitalisés, tu as raison. Mais néanmoins, là, hier, dans le match.
Pas dévitalisés, c'est la partie la plus grande de leur business.
Oui, mais sur le terrain. Le management. Sur le terrain, hier, je pense que, quoi qu'ait fait Fonseca, et je te dis, il a fait du bon boulot, on l'a loué beaucoup cette année, je pense que les joueurs ont pensé que les Toulousains, en gros, allaient leur laisser les portes ouvertes. Et se rendant compte que c'était pas le cas, c'est eux qui ont pas su passer la vitesse supérieure. Après, cette équipe, moi je retire pas de ce qu'on a vu la semaine d'avant. Elle était supérieure à Rennes, tu vois, et nettement supérieure à Rennes, elle est pas inférieure à Toulouse. Donc effectivement, c'est un accident, ça arrive, tu vois ce que je veux te dire. Si tu vois sur la saison, c'est un accident.
Ça arrive. Il fait plus de dégâts.
Ah oui, c'est sûr que ça fait mal, mais moi je plaide plutôt pour l'histoire de l'accident et je trouve que la gestion pour le coup émotionnelle de ce qu'il a fait après le match, c'est-à-dire un peu de banaliser cette chose-là pour dire bon, de toute façon, il faut passer à autre chose, il faut surtout réussir le dernier, ne m'a pas choqué outre mesure.
Ouais, mais bon, en face, t'as une équipe Lille qui va recevoir Auxerre et qui a maintenant un boulevard.
Ça c'est clair.
T'as voilà pour Lyon. Le PSG dans quelques instants, juste après 23h. Jean-Louis, je t'invite à prendre ton micro pour ce premier quiz. Alors, je vais vous poser des questions. Faut lever le bras si vous pensez avoir la bonne réponse. Alors, évidemment, réfléchissez avant de lever le bras parce que sinon, vous vous tapez les rondes devant tout le monde. Hein, donc, oui.
C'est sur l'histoire de quoi.
On reste sur une étape à Toulouse catastrophique. Hein,
ouais.
Où il n'y avait pas une bonne réponse. Hein, donc.
Alors, vous savez que, bon, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais peut-être à Daniel, Jean-Louis et Flo, que Valence est une des villes les plus arméniennes de France.
Mais bon, on le sait quand même.
Ah bon, tu le sais?
Bon, quand même.
Ah, c'est un rare truc que je savais, on arrivait.
Tu sais qu'il y a un centre du patrimoine arménien au centre-ville, par exemple?
Oui. Voilà. On ira le voir demain matin.
Est-ce que tu sais que Henrik Mkhitaryan a passé 7 années de sa vie quand il était petit parce que son père jouait à Valence? Alors attention, j'ai 2 places pour le match Marseille-Rennes pour celui qui arrive à m'épeler très vite au micro de Jean-Louis le nom de famille de Mkhitaryan.
Ah, ouais, j'ai vu une main levée là-bas.
Alors là.
Là, t'es quand même. Bon, j'y vais parce qu'il a levé vite.
Il a levé vite, mais il y a risque.
Avec le prénom ou que le nom?
Ah non, que le nom. Que le nom.
Hop là. Qu'est-ce que c'est que ces marches? Alors, il est là.
Et
Bah oui, le nom de famille.
Le nom de famille. Attention, c'est parti.
Mkhitaryan.
Ah non, il y a un
erreur. C'est pas bon. Il y a une erreur.
Il y avait un beau mot de Saint-Etienne.
Il y a une erreur.
Alors, qui tente?
En bas, Jean-Louis.
Là, au deuxième rang.
Ok.
Allez. Allons-y.
Vous avez été coach de Mkhitaryan?
De son père.
Ah, alors on vous écoute.
C'est pas du jeu du coup.
Son père en Ligue 2 quand même.
Ouais.
Pas comme l'équipe de là-bas.
Allez-y.
Non, Mkhitaryan. Mais avant c'était Mkhitaryan.
Ah. Ça a changé. Ah là, mais là on parle du nom actuel. Oui. Hein.
On l'a réduit. Mkhitaryan.
C'est pas bon. Non, c'est désolé, pas bon. C'est pas bon.
Là, on aura une belle anecdote quand même au début.
On aura une belle anecdote, mais c'est pas bon.
Alors, une petite anecdote, non? Vous n'avez pas grandi avec Mkhitaryan?
Bah si, en fait, parce que je suis quasiment de la même génération. Alors, oui, parce que les noms, en fait, ils changent suivant s'ils sont orthographiés de manière orientale ou occidentale.
C'est vrai.
Donc, Mkhitaryan, maintenant, je crois que c'est M-K-H. Alors, donc, I-T-A-R-Y-A-N.
Ouais. Exact. Bon, bravo. Bravo. Voilà. Notre ami Stéphanois avait mis un i.
Ah, tu peux y aller, tu peux y aller.
Bravo. Mkhitaryan, donc, bah, vous gagnez deux places. Tu gagnes deux places pour le match Marseille-Rennes de ce week-end. Alors, j'ai encore deux places. Alors, c'est vrai que le fait d'armes de Valence, et monsieur qui a été l'entraîneur des Mkhitaryan le sait, c'est un quart de finale de Coupe de France face à Auxerre en 96. Eh oui. Valence avait alors perdu face à Auxerre. C'est la meilleure perf de Valence en Coupe dans son histoire. J'offre deux places pour Marseille-Rennes à quelqu'un dans la salle qui est capable de me citer au moins deux joueurs de Valence qui étaient là ce jour-là. J'ai alors, la compo devant les yeux.
Hein. Là, il y a un gars qui a levé, qui a baissé alors, après, là, qui a regretté.
Là, non, mais il faut du spécialiste.
Il y a le maillot équipe de France.
C'est quoi la date?
J'ai cru que ça allait être les buteurs, donc ça, je les avais. Les buteurs au Serrois, c'était Diomède et Blanc.
Non, moi, je veux deux joueurs de Valence.
Deux joueurs de Valence, Eric Kanté et Darrocha. Je tente.
Non. C'est pas bon.
Aucun des deux? Oui, il y a l'écharpe, il y a l'écharpe. Ah. Priorité à l'écharpe.
L'écharpe de Valence?
Le chrome.
C'est ça au cerf, ça.
Non, qui était gardien.
Non, mais on parle de Valence, nous. Hein.
Oui.
Non, c'est pas bon. Okay. Pas de Le Chrome.
Ah, il était pas gardien.
Pas de Le Chrome, merci, au revoir.
L'écharpe suffit pas. Arrêtez de vous rattraper, vous avez perdu votre tour.
Trouve-nous des connaisseurs.
Là. Lève-toi, viens là.
Deux joueurs de Valence, 96.
Alors, bonsoir.
Bonsoir.
Pardon, j'ai écrasé tout le monde. Dans les cases, il y avait le grand Yass Madjian.
Exact.
Et en défense, il y avait Leclerc, par exemple.
Exact,
il y avait
c'est bon.
Qui est rentré aussi.
Bravo.
Vas-y, tu peux y aller.
Bravo. Deux places pour toi. Il y avait Fréchet, Chabert et le dénommé Moutard, par exemple.
Oui. Vincent Yass Madjian,
ouais. Gardien de but.
Ouais, j'ai bien
exactement.
Très très bon gardien.
Bah les gars, vous allez pouvoir avec Johan qui est dans la salle, qui est le responsable de nos partenariats, récupérer vos places. Bravo. Et dans un instant, il est 23h. On se retrouve pour parler du PSG dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
Les 20 ans de l'after foot en direct de Valence.